66.
Non. 118 avant Jésus-Christ.
Oh, oh.
118.
09 3.
118. Moins 50 pour
la ville. 118.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie, comme chaque mercredi matin, de 9h30 à 10h30. Chaque mercredi matin, ou presque. Et le sommaire de l'émission d'aujourd'hui, eh bien, on va consacrer notre heure à une discussion avec Alexandre Massé-Dubois autour de son livre « À en devenir fou, dans la peau d'un schizophrène », récit d'un journaliste infiltré en hôpital psychiatrique, un livre paru en octobre 2023 aux éditions Phébus. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Et bonjour Natacha qui est venue nous rejoindre.
Bonjour.
Et donc, c'est un livre, bon, on peut dire un peu des phrases de la quatrième de couverture. Au moment où les soignants dénoncent l'état catastrophique de la psychiatrie en France, Alexandre Massé-Dubois infiltre un service psychiatrique en se faisant passer pour schizophrène. Il va partager le quotidien des patients et découvrir la triste réalité, l'absence de suivi l'absence de psychothérapie, une lourde médicamentation standardisée. Il décrit des malades livrés à eux-mêmes et un système en souffrance. Un témoignage assorti de données statistiques et d'avis de professionnels qui, plus que jamais, tirent la sonnette d'alarme sur le manque de moyens alors que le nombre de personnes atteintes de pathologies psychiatriques ne cesse d'augmenter. Voilà, donc ça c'est la quatrième de couverture, donc ça donne un peu le décor. Et donc j'ai parcouru ce livre et j'ai relevé des extraits que j'avais envie de lire à cette antenne. Déjà, par rapport à la question que je me posais, mais qu'est-ce qui t'a motivé pour écrire ce livre? Qu'est-ce qui t'a amené, donné envie d'écrire ce livre? Alors, est-ce que, donc, Bon, on évoque, on imagine, et enfin tu as déjà dit aussi au cours d'interview précédente qu'il y avait la curiosité journalistique, la lecture des rapports de la contrôleur général des lieux de privation de liberté, Dominique Simoneau. Mais dans ton livre, j'ai aussi lu que... qu'il peut y avoir aussi, que tu t'es questionné aussi, tu avais un questionnement personnel, en fait, un peu aussi sur qu'est-ce que c'est que l'institution psychiatrique. Alors, je lis un extrait. Il y a un an et demi, un très bon ami d'origine marocaine, jugé excentrique et romantique par ses proches, mais diagnostiqué maniaco-dépressif par les médecins, a passé quelques mois dans un hôpital psychiatrique. Les résultats furent pour le moins décevants. Mon ami alterna semaines d'hospitalisation et phases de rémission, suivies d'inévitables rechutes et retours à l'hôpital, avant de se résigner à poursuivre sa cure à Casablanca sans plus de succès. Il ne dut son salut qu'à la pugnacité de sa mère et de ses proches qui ont su, selon ses termes, entendre ses appels à l'aide, le comprendre sans jugement et l'accompagner vers le bel avenir auquel il se destine aujourd'hui. Le récit qu'il me fit de ses hospitalisations me parut aussi glaçant qu'intrigant. Patient négligé, ombre déambulant le long de couloirs aseptisés ou dans une cour déserte avec pour seul repère temporel les repas insipides, prise de médicaments abrutissants sous l'œil vigilant des infirmiers, suivi humain quasi inexistant. Mon ami était un numéro de chambre, éventuellement un nom, mais bien rarement une personne à part entière à laquelle l'on pouvait témoigner un semblant de considération ou un minimum d'estime. Et donc, ça suscite toutes ces questions. Que font ces établissements, sinon distribuer des comprimés afin d'éviter toute dérive au cours du séjour et abandonner par la suite les malades à leur propre sort? Comment ces patients vivent-ils cet isolement, cette captivité, puis cet abandon?
Je pense que tu as tout dit déjà. Disons qu'il y avait en effet cette curiosité journalistique. Donc je suis journaliste depuis une dizaine d'années et en effet je lisais les rapports régulièrement, trop régulièrement, donc des professionnels de la santé eux-mêmes qui alertent sur le manque de moyens de la psychiatrie. Les professionnels de la santé, donc les infirmiers, les psychiatres, et comme tu l'as dit, donc Dominique Simoneau, donc qui est la contrôleur général des lieux de privation de liberté, Dominique Simoneau, qui alerte elle sur le recours abusif à l'isolement et à la contention. Et il faut pas oublier, enfin il faut mentionner que la France qui est quand même le pays des droits de l'homme, est également pointée du doigt pour ses pratiques, donc l'isolement et la contention, par l'ONU et par le Conseil de l'Europe. Donc c'est pas rien. Donc il y avait cette curiosité journalistique et une curiosité humaine aussi. Donc j'ai deux amis qui sont passés par la case hôpital psychiatrique, oui. Et qui m'avaient fait part un peu de leur ressenti. C'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose des hôpitaux psychiatriques. Pourtant tout le monde peut être concerné par la maladie mentale. C'est une personne sur cinq aujourd'hui qui est touchée dans sa vie par une maladie mentale. Et en effet, le récit qu'ils me faisaient de leur parcours, de leurs internements. Alors aujourd'hui, on n'est plus censé parler d'internement, mais j'en parle quand même. Aujourd'hui, on dit hospitalisation en psychiatrie. Donc, ils me racontaient un peu leur quotidien, un quotidien fait d'ennui, et puis une prise de médicaments complètement assommant. Voilà, ils me parlaient de cette hyper-médication. Donc, j'ai été très curieux. Alors, j'ai connu beaucoup de journalistes qui, avant de faire leur reportage, avaient des a priori et me disaient, bon, voilà ce qu'on va voir, voilà ce qu'on va faire. Moi, j'ai voulu me rendre dans un établissement psychiatrique, hein, sans avoir de préjugés. Ma première idée était de témoigner, de donner la parole aux inaudibles, de donner un visage aux invisibles. C'est ce que j'ai voulu faire, c'est partager le quotidien de ces patients. Alors il y a des journalistes qui ont enquêté sur les hôpitaux psychiatriques. Là, oui. Encore récemment, il y a un journaliste du Monde là, qui va sortir un livre dans quelques jours et qui a passé un an dans un hôpital psychiatrique, mais pas dans la peau d'un malade. Moi, je voulais vraiment partager le quotidien de ces patients. Et je voulais vérifier de mes propres yeux si le récit qui m'avait été fait était était correcte. Et ce que j'écris dans le livre, c'est que je m'attendais à voir l'enfer et j'ai vu pire.
D'accord. Alors donc, tu as endossé le personnage en recherchant le diagnostic de schizophrénie.
Oui, exactement. Alors, je veux pas du tout stigmatiser les malades, mais il fallait que je trouve en effet un prétexte.
Un peu à la manière de Rosenhan dans les années 60 ou 70, je sais plus, qui avait fait croire donc.
Exactement, oui, c'était un psychologue américain dans les années 70 qui, pour prouver un peu la vacuité du diagnostic psychiatrique, qui avait fait interner 13 de ses amis, pareil, sous un faux prétexte. Voilà. Et puis il y a surtout une journaliste américaine, Nelly Bly, vers 1880, qui s'était fait interner également, qui a dénoncé la situation des hôpitaux psychiatriques aux États-Unis. Donc je suis pas le premier, je suis pas le dernier. Mais en tout cas, cette méthode de journalisme, ce qu'on appelle le journalisme d'infiltration, en tout cas m'a semblé le plus pertinent pour être au plus proche des patients.
Oui.
Et ainsi, voilà, relater leur quotidien sans jugement, sans... En fait, c'est pas une, moi je considère pas ça comme une enquête, c'est un témoignage. Et comme tu l'as dit, la fin du livre, un dernier chapitre, est lui consacré aux paroles des professionnels de la santé eux-mêmes, qui ont plus de légitimité que moi évidemment, et qui dénoncent, mais comme moi aujourd'hui, les dérives de la psychiatrie moderne.
Alors oui, il y a des choses que tu viens de dire sur lesquelles j'aurais envie de rebondir. Déjà sur le fait de la légitimité. En fait, est-ce qu'on peut aussi considérer parfois que des soignants dont on constate qu'ils sont maltraitants ont-ils une légitimité à nous expliquer ce que c'est la psychiatrie par rapport à d'autres personnes un peu plus extérieures.
Alors moi, je veux vraiment pas, dans ce livre, je veux pas mettre tout le monde dans le même panier.
Oui.
Je veux pas. C'est pas un pamphlet à charge contre l'hôpital psychiatrique ou contre les soignants.
D'accord.
Ce que j'ai vu m'a évidemment choqué. J'ai vu, j'en parle dans le livre, il y a une jeune autiste. Qui, je pense, j'en suis quasiment certain, qui était victime d'agressions sexuelles, voire de viols par un autre patient. Et ce sont des choses qu'on voit malheureusement, qu'on lit. Et puis pas seulement dans les hôpitaux psychiatriques, dans les EHPAD, ou dans les institutions spécialisées pour les personnes handicapées. Voilà, ce sont le sort qui est réservé aux personnes vulnérables et qui sont considérées dans ces lieux comme des citoyens de seconde zone. Ce qu'un soignant m'expliquait après coup, je disais voilà, moi j'ai vu des atrocités, alors j'étais dans un état de lucidité, donc j'ai été vraiment choqué par ça. Et le psychiatre, je crois que c'était un chef de service dans un grand hôpital psychiatrique parisien que je ne vais pas nommer, qui me disait oui, enfin ce que vous avez vu, vous étiez lucide et finalement eux ne l'étaient pas, donc eux n'étaient pas choqués finalement par le traitement, ils n'étaient pas choqués par les médicaments, ils n'étaient pas choqués par les patients qui font des malaises ou des crises d'épilepsie, ils n'étaient pas choqués par l'ennui aussi, parce que moi l'ennui ça m'a vraiment marqué, on va peut-être en parler, mais c'est ce que quand je me suis fait interner. Donc après une simple consultation de 14 minutes.
Oui, alors qu'on peut peut-être regarder un peu de plus près cette consultation de quand tu t'es présenté devant le psychiatre, qui est un psychiatre en ville, spécialiste de la schizophrénie, dans un cabinet donc dans le 11e arrondissement, dans un immeuble moderne parisien.
Exactement, c'était voilà, j'avais choisi sur internet. Un psychiatre spécialiste de la schizophrénie, comme ça je me suis dit que le succès n'en serait que plus glorieux, et j'ai réussi à le berner
voilà.
En 14 minutes,
c'est voilà, ça.
C'était très rapide.
Donc bon, tu t'étais bien préparé quand même, parce que je lis, contrairement à ce qui était prévu, une forme de sobriété, j'avais fait le choix de m'enivrer plus que de raison et d'apparaître... en ayant mis de côté toute forme d'hygiène pendant plus de 48 heures. J'avais également eu la brillante idée d'ouvrir la porte de mon four, de me saisir du papier sulfurisé qui traînait sur le grill et de m'étaler une bonne dose de gras de poulet sur le t-shirt. Je faisais peine à voir. Et donc, après, donc...
Oui, c'était rentré dans un personnage. Après, encore une fois, j'avais... C'est ce que j'avais vu dans le DSM-5, qui est un peu la Bible des psychiatres.
Oui.
J'avais vu ces symptômes-là.
Oui.
Et je m'en étais saisi. Mais encore une fois, j'ai discuté. Après coup, j'ai reçu beaucoup de témoignages après la sortie du livre. Et mon idée n'était pas du tout de stigmatiser les malades, les schizophrènes, n'importe qui.
Oui.
Voilà, c'était vraiment un prétexte.
Oui.
Pour, in fine, je souhaite, j'espère, prendre leur défense, les aider. Et je pense que tous les témoignages que j'ai reçus après coup de malades, principalement.
Est-ce qu'il y
a... Parce que c'est un livre qui a choqué un peu la profession, ah, même
oui,
si
oui.
certains psychiatres, donc par exemple Mathieu Bellassen, on partage à peu près le même combat. Mais j'ai reçu des témoignages de malades. Après coup, voilà, il y a une jeune femme qui me disait « La psychiatrie brise des vies. Nier la violence systémique de la psychiatrie, c'est comme nier que le racisme existe ou que la Shoah a pu exister. » Il y a un autre garçon qui est actuellement hospitalisé en psychiatrie qui m'a envoyé un message qui me disait « Je suis effrayé par ce rouleau compresseur qu'est la médecine psy en France. » Et il y a une autre femme qui me dit qu'elle a été broyée. Elle a été broyée par ses années en psychiatrie. Mmh. Donc je pense que j'ai pas complètement fait fausse route et que finalement rentrer dans ce personnage qui n'était qu'un prétexte, finalement ça m'a aidé. Et puis aujourd'hui, voilà, j'espère que ça aide un peu à mettre en lumière les pratiques de la psychiatrie.
Donc ce psychiatre t'a préparé une lettre pour te faire rentrer dans un hôpital psychiatrique.
Oui, comme il a été, je l'ai complètement berné, il m'a écrit cette lettre qui était un sésame pour entrer dans tous les hôpitaux psychiatriques.
Cette lettre, tu l'as utilisée à plusieurs reprises.
Bah oui, c'était, je gardais, quand je suis allé, du coup je suis allé aux urgences psychiatriques de l'hôpital Bichat, dans le nord de oui. Paris, et j'ai montré cette lettre. Alors je continuais à adopter un peu les symptômes, mais voilà, surtout j'ai montré cette lettre qui voulait tout dire. Alors tout était faux, évidemment. J'avais expliqué
oui.
au premier psychiatre que mon père était schizophrène, que j'avais consommé du cannabis. Voilà, tout pour qu'on croie et pour que... Voilà,
ça n'a pas été difficile, finalement.
Non, le premier psychiatre, ça a duré donc 14 minutes. Après, aux urgences psychiatriques, il y a eu une prise en charge complètement chaotique
oui.
par un psychiatre complètement libidineux qui me faisait des remarques, qui faisait preuve d'une arrogance absolument choquante. Ça a duré quasiment 36 heures, cette prise en charge.
Oui.
Avec à côté de moi, surtout des vrais malades, des vrais malades qui hurlaient dans tous les sens, qui cherchaient le psychiatre. Personne ne le trouvait, en fait. Je crois qu'on a dû attendre 4 ou 5 heures avant qu'il arrive. Et il y avait un patient qui hurlait parce qu'il voulait voir le psychiatre et qui s'est mis à l'insulter de tous les noms. Et il y a des infirmiers qui sont venus le voir. Je pensais qu'ils allaient le calmer. En fait, les infirmiers lui ont dit, bienvenue à l'hôpital public, monsieur.
Et ça, à 3h du matin, dans une urgence de psychiatrique de Bichat.
Oui. Exactement, ouais. Exactement. Et puis quand j'ai revu le psychiatre, donc je l'ai vu une première fois, je crois, à 3h du matin, et je l'ai revu une seconde fois à 5h. Et à 5h, il avait tout simplement perdu mon dossier.
Oui.
Voilà, donc il fallait qu'on recommence tout. Il m'a dit, écoutez, de toute façon... Il n'y a pas de place, vous pouvez dormir sur une chaise, de manière très cynique. Donc à ce moment-là, je suis rentré chez moi, j'ai dormi 2 heures et je suis revenu à l'hôpital, où là j'ai été correctement pris en charge et les psychiatres ont trouvé une place dans un établissement pas très loin de l'hôpital Bichat.
Alors, peut-être aurais-tu un commentaire à faire, Natacha ?
Pas mal de choses qui oui. font écho à des choses que j'ai pu voir vivre, notamment dans ce changement de rôle, en fait, parce que j'ai eu les deux versants. Moi, j'étais patiente pendant pas mal d'années, puis j'ai pu faire partie de l'équipe ensuite en tant que père aidante, et c'est vrai que ça change tout. La condition patiente est vraiment une condition de sous-humain, quoi, où effectivement, si on ne se met pas dans la peau en tant que personne pour le vivre, enfin, c'est pas... Un journaliste qui vient faire un reportage ne va pas comprendre ce qui se passe quand, dehors de, justement, les conditions de son accueil, en fait, en tant que patient. Et c'est très courageux de faire ça, mais c'est aussi, à mon sens, très dangereux, parce qu'on a vite fait de rentrer dans un circuit fermé, sans regard extérieur, justement, avec tout de suite mise en place d'un traitement, etc. Et où, justement, cette histoire de savoir ce qui s'est passé est vite broyée par les médicaments. En fait, quand vous parlez de viol et d'agression, enfin, il y a vraiment un système qui fait que notre mémoire, de toute façon, elle est aussi empêchée par tout ce qu'on mange de médicaments. Donc, en fait, même si on voit qu'il y a des choses qui, peut-être, à un moment de lucidité, ne sont pas normales, on va peut-être les oublier les jours suivants, en fait, parce qu'on est shooté. Mmh. Donc, il y a quelque chose de terrible aussi de vouloir garder la trace, de sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, d'avoir d'autres gens autour de nous qui vivent un peu la même chose. Donc finalement, on n'a pas forcément d'éléments de recul, mais d'être progressivement enlisé dans un système où les traitements font que de toute façon, on ne peut que faire ce qu'on nous demande de faire, parce qu'il y a aussi la possibilité peut-être de sortir un jour si on répond correctement à ce qui nous est demandé de faire. Donc c'est vraiment un système très très fermé où si on n'accepte pas toutes les choses qui sont imposées sur nous, on est un peu condamné, en fait.
Oui, moi, ce que j'explique dans le livre, ce sont des citoyens de seconde zone. Voilà. Ils sont traités comme des animaux, en fait. Hein. Comme des animaux. Il y a une différence entre, voilà, le psychiatre, une personne, un être humain, et les patients. Et les patients pour qui on n'a aucune estime. Voilà. Il n'y a aucune humanité dans ces lieux.
Alors, on avait parlé de ton livre à une autre émission de Radio Libertaire il y a quelque temps, là, il y a deux semaines ou trois, et on avait évoqué ce danger que tu avais risqué aussi toi-même de te retrouver, de passer de hospitalisation libre à hospitalisation à la demande d'un tiers. De rester finalement enfermé dans
l'institution. Oui, c'était tout le risque de l'expérience. Qui a inquiété plus mes parents que moi-même. J'ai considéré qu'un vrai journaliste se devait de prendre ses risques. Et puis il y a des journalistes aujourd'hui qui risquent leur vie sur les terrains de guerre. Donc vraiment, je n'ai fait que mon métier. Mais le risque, en effet, c'était, il y a plusieurs types d'hospitalisation. Et le danger était de rentrer en soins libres. Après, quand on rentre en soins libres, on a le droit de partir en théorie quand on veut. Mais le médecin de l'établissement peut... Il y a une exception à la loi qui explique qu'il a le droit de changer ton type d'hospitalisation. Et il y a beaucoup... Pareil, j'ai reçu des témoignages de gens qui sont rentrés de manière libre à l'hôpital et qui, au bout de quelques jours, ont été contraints de prendre des médicaments et finalement contraints d'y rester. Et il y a des gens qui restent des mois, qui restent des années, en fait, qui sont complètement abandonnés par leurs proches, par la société, et qui, en effet, par ce manque de lucidité, finalement peuvent y passer des mois, des années.
Et même toute leur vie.
Exactement. Moi, il y a une personne qui m'a contacté, qui m'a expliqué. J'ai été interné pendant 20 ans, j'ai perdu 20 ans de ma vie. Voilà, donc voilà. Ça peut aller très vite.
Oui. Alors, le danger de rester et le danger justement d'avoir un traitement médicamenteux. Mmh. À un moment, alors j'aime bien ce chapitre 6, le début. Je lis. Ce vendredi, alors que je saluais poliment de la main les infirmiers en passant à côté de leur bureau, ils m'ordonnèrent de m'arrêter. Hop, 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 monsieur Massé-Dubois, est-ce qu'on n'aurait pas oublié quelque chose ce matin? On aurait dit une mère de famille rappelant à son gosse de prendre ses affaires de sport pour son cours de tennis. Je rentrais dans la pièce et, au centre de dizaines de fioles de toutes les couleurs, j'aperçus le numéro de ma chambre, écrit sur un gobelet en plastique rempli d'eau. Et à côté de ce dernier se trouvait un petit comprimé orange qui me faisait de l'œil. Le même que j'avais ingurgité le soir de mon arrivée et qui m'avait plongé dans un état de marasme absolu. J'expliquai aux infirmiers, d'une voix placide qui ne devait pas trahir mes craintes, que je n'avais pas l'intention de prendre quoi que ce soit et que c'était sans doute une erreur. C'est obligatoire, monsieur, c'est du tertian, c'est indiqué dans votre dossier. Je n'ai aucun traitement à prendre. Monsieur, soyez raisonnable, on ne va pas vous le faire avaler de force quand même. Je ne vais rien avaler du tout, renseignez-vous auprès de la psychiatre, je n'ai consenti à aucun soin. Les deux hommes en blouse blanche se regardèrent d'un air désabusé. J'espérais que l'utilisation de l'expression « consentir à un soin » très spécifique dans la bouche d'un patient ne leur avait pas mis la puce à l'oreille. Le plus jeune d'entre eux rouvrit mon dossier et fit défiler son doigt le long d'une feuille. Il fronça les sourcils tout en hochant la tête et dit avec une pointe d'amertume à son collègue « En effet, il a raison ». Il était malheureusement probable qu'un certain nombre de patients, faute de lucidité, ingéraient des traitements qui ne leur étaient pas réservés, d'autant que peu d'entre eux connaissaient le nom ou les effets des pilules qu'ils absorbaient déjà chaque matin. Alors, la formule « je n'ai consenti à aucun soin », c'est une formule précieuse qui a permis que tu échappes.
Oui, ce qu'il faut dire, c'est qu'à mon arrivée à l'hôpital psychiatrique, je suis arrivé un mardi soir vers minuit, il y a un infirmier de garde qui m'a directement donné un petit comprimé en me disant voilà, bon, vous en faites pas, ici tout le monde en prend, ça va vous aider à dormir. Donc on avait oublié de me parler des effets secondaires, et puis on m'a pas donné le nom de cette petite pilule orange. C'était du tertiaire, qui est un psychotrope assez lourd, et j'ai eu des effets secondaires pendant 24 heures. J'arrivais pas à marcher, j'avais plus de salive, j'arrivais plus à m'exprimer. Et j'ai rapidement, j'ai eu la chance de le réaliser. Et après de refuser tous les soins, parce que à l'origine mon but était de rentrer à l'hôpital psychiatrique, et très rapidement le but a été d'en ressortir. Mais en fait pour les infirmiers, donc qui voulaient à tout prix me donner des médicaments, mais c'était le cas de la psychiatre aussi de l'établissement dont je parle dans le livre, c'est pour ce système, en fait, il y a un système qui ne jure que par le traitement, que par le médicament. Pour eux, on peut pas pour soigner la maladie mentale, c'est forcément le traitement, c'est forcément le médicament. Ce sont des médicaments extrêmement lourds, hein. Et c'est tout un système qui est basé là-dessus. Alors que le système peut aussi pourrait aussi être basé sur une sorte de psychothérapie, sur une écoute, sur une bienveillance, sur de la communication. Mais non, en fait, la solution de facilité, c'est le médicament, c'est le traitement.
Alors, est-ce que c'est pas pour on pourrait pas dire que ce serait un moyen de pouvoir aussi, d'exercer un pouvoir, puisque le médicament fragilise les personnes en fin de compte, puisqu'elles ne peuvent plus réagir, j'allais dire normalement.
Oui, ils sont réduits à un état léthargique. Donc après, on fait ce qu'on veut d'eux. Et en fait, on les met hors d'état de nuire. Parce que c'est, voilà, en effet, c'est facile. Alors, il y a ce système qui ne jure que par le médicament. Ça, évidemment, il y a une raison de manque de moyens, de manque de moyens humains dans la psychiatrie. C'est pour ça que je veux pas taper sur tous les infirmiers. Évidemment, il y a des infirmiers qui ont des conditions de travail complètement désastreuses. Ils sont très peu nombreux. La psychiatrie aujourd'hui, c'est 30% de postes vacants. C'est une fermeture de 60% des lits depuis 40 ans. C'est tout un secteur qui est paupérisé. Et la solution pour eux, finalement, c'est on n'a pas le temps d'accompagner, on n'a pas le temps de suivre les patients. Donc on va utiliser des médicaments, mais les médicaments, ça coûte extrêmement cher. Il y a une hausse de sur 20 ou 30 ans, il y a une augmentation de 650% du prix des psychotropes. Donc le système, ça coûte extrêmement. En fait, quand la psychiatrie, c'est le premier poste de dépense de l'assurance maladie. C'est dans les 24 milliards d'euros par an. Donc en fait, le discours de dire que c'est uniquement un manque de moyens, qu'il faudrait un chèque de la part de l'État, ça ne fonctionne pas. C'est toute une politique à revoir.
Et donc ce marché du médicament aussi, donc le fait que l'institution pousse à la consommation, en fait, et qui font la prospérité des laboratoires.
Oui, exactement. De toute façon, c'est toute la société, toute la société capitaliste, qui veut. Aujourd'hui, il y a plus d'humains, il y a plus de bienveillance dans le système.
Alors, il y a une expérience qui a été faite, une expérience qui a été faite non pas par un journaliste, mais par un cinéaste. Mais c'était en 2011. C'était Alan Klipper, il s'appelle ce cinéaste, Ilan Klipper, et qui avait fait un film qui s'appelle Sainte-Anne, hôpital psychiatrique. Il avait posé sa caméra dans les couloirs de Sainte-Anne. Et puis le personnel continuait à officier, puis les personnes psychiatrisées aussi à se promener, à déambuler dans les couloirs, en oubliant la caméra. Tout le monde oubliait la caméra. Et donc, il y avait plusieurs séquences, plusieurs scènes comme ça, très intéressantes dans ce film. Ce film qu'on n'arrive pas plus à retrouver en France, d'ailleurs, parce qu'il a été assez censuré, en fait. Mmh. Et on le retrouve encore, et j'ai retrouvé un lien avec... Juste sous-titré en allemand, donc voilà. Mmh. Mais...
C'était un peu ce que j'ai voulu faire rapidement. Moi, je me suis rapidement départi de mon rôle de journaliste, hein, pour vraiment vivre le quotidien avec les patients, les écouter, leur poser des questions, un petit peu connaître leurs désirs, leurs ambitions, connaître leur vécu, et puis pour aussi un peu essayer de dégayer leur quotidien. On parle de patients qui sont donc complètement délaissés et puis qui marchent pieds nus dans une petite cour minuscule pleine de crasse, hein, qui n'ont pas de chaussettes, qui n'ont pas de chaussures. Ouais. Donc j'ai essayé, je suis pas un héros, pas du tout, mais j'ai essayé de leur donner des paires de chaussettes, de leur donner des chaussures. Il y avait un jeune homme, Richie de son prénom, qui marchait pieds nus et qui s'était ouvert le pied parce que la cour était sale, parce que la cour était et c'était extrêmement choquant. Et puis encore une fois, en fait, on se disait que c'était des animaux, donc ils n'ont pas de lucidité, ils n'ont rien. Donc finalement, qu'ils se blessent ou qu'ils soient réduits sous le poids des psychotropes ou qu'ils soient dans un état léthargique, finalement on s'en fout parce qu'ils sont malades.
Oui, alors effectivement, ce ne sont pas des animaux, ce sont des êtres humains et que tu as rencontrés et dont à la lecture, bah, qu'on a rencontré un peu aussi nous-mêmes, en fait. Donc, ces prénoms. Richie, Franco, Mido, Ahmed, Leslie, Claude, Daisy, Jeanne, Jo, Franco. Voilà.
Exactement, ce sont des rencontres, c'est des rencontres absolument incroyables. À mes yeux, il y a autant d'humanité chez ces patients qu'il n'y en a pas dans le système psychiatrique. En partageant leur quotidien, en fait, ils m'ont apporté énormément de choses, énormément d'humanité. J'ai essayé de leur apporter aussi, donc dégayer un peu leur quotidien. Ce qui est amusant, c'est que... Ce qui est triste aussi à la fois, c'est que il y a beaucoup d'entraide entre les patients. Dès que je suis arrivé, donc Richie m'a fait un petit tour du propriétaire. Et il m'a présenté tout le monde, et en fait, tous les jours, on s'aidait, on s'entraidait. C'est pour ça que je les appelle un peu des camarades d'infortune. Oui. On était dans le même bateau. Donc, ce qui me concerne, pendant une semaine, il y a des gens qui sont restés 6 mois, 1 an ou plusieurs années. Donc, on s'entraidait. Il y avait cette grotte d'humanité, cette grotte d'amitié pendant une semaine. Je savais que j'allais pas les revoir, mais j'ai voulu être plus proche et je me suis pas forcé du tout, en fait. On a partagé des moments extraordinaires et surtout avec Jeanne qui est arrivée 24 heures après moi, et avec qui j'ai partagé, j'ai eu une complicité absolument incroyable. Jeanne, ça a été ma meilleure amie, ça a été ma sœur pendant une semaine, on s'est raconté nos vies, c'était extraordinaire. Et on s'est dit après que finalement que seule la folie nous avait réunis, parce qu'on a essayé de se voir à l'extérieur. Ça n'a pas fonctionné, on n'a pas été amis, parce qu'on était très différents, mais que dans l'institution qui est l'hôpital psychiatrique, finalement, on était fait de la même étoffe. Hein.
Et cette rencontre et cette amitié t'a permis de supporter mieux, de mieux supporter ce séjour aussi.
Ah oui, c'est même pas de mieux le supporter, c'est de le supporter tout court. Oui. Je pense que je n'aurais pas tenu le coup sans cette fille. Hein.
6 jours, ton séjour a duré.
Oui. Exactement. Alors, initialement, je voulais rester beaucoup plus longtemps. Moi, je m'étais dit que je me suis dit en une semaine, Alex, tu verras pas grand chose. Je voulais rester 6 semaines. Mais très rapidement, en fait, j'ai réalisé que les minutes avaient valeur d'heure dans ce lieu. Que, en fait, on fait les 100 pas. C'est noté qu'on ait encore les moyens de marcher. Parce que beaucoup tombaient par terre, faisaient des crises d'épilepsie. Mmh. En fait, on fait les 100 pas, il y a un baby-foot 100 balles, il y a une télé qui ne fonctionne pas, il y a 4 chaises qui se battent en duel. Mmh. Donc il y a un ennui. Et donc moi, je suis resté, j'ai eu la chance de rester qu'une semaine. Mais le risque était également donc, que la psychiatre de l'établissement me force à rester, voilà, m'interne contre mon gré. Donc c'était le risque, j'ai essayé, il y a eu un bras de fer qui s'est créé entre la psychiatre et moi. Donc elle voulait à tout prix me donner des médicaments et ben mon but était de sortir. Et en fait, quand je disais à la psychiatre que j'allais mieux, que j'avais un cadre, que je rencontrais des gens, que j'avais à nouveau une sociabilité pour cette psychiatre et pour tout le système, on ne peut pas aller mieux sans médicaments en fait.
Oui. C'est-à-dire que il fallait prendre des médicaments, il te fallait un traitement et pour que tu restes plus longtemps aussi.
Mmh. Oui, voilà, elle m'avait dit bon, de toute façon on va vous donner un traitement. Bon, ça va durer 3 semaines, mais vous pourrez éventuellement sortir un soir pour voir vos amis, pour voir votre famille. Ouais.
Je lis l'extrait qui correspond à ce que tu dis. Pour parfaire mon personnage de malade ayant retrouvé le goût à la vie, j'avais rasé ma barbe de près, revêtu un petit polo et j'arborais une coiffure impeccable, en plus du large sourire qui m'avait sciemment fait défaut lors de notre premier rendez-vous. Bonjour docteur, je tenais tout d'abord à vous remercier de me recevoir aujourd'hui et de vous enquérir de mon état de santé, dis-je avec une pointe d'ironie. Figurez-vous que je me porte comme un charme. Je n'ai plus d'hallucinations auditives, je crois que ces 3 jours ici m'ont beaucoup aidé. J'ai retrouvé un rythme de vie, des repas sains et à heure fixe, le plaisir de prendre une douche tous les jours, de faire mon lit, tous ces petits gestes du quotidien qui engendraient chez moi beaucoup d'angoisse. Alors que je m'étais renfermé sur moi-même pendant des mois, je me suis ouvert aux autres et je pense que les infirmiers peuvent le confirmer, je passe beaucoup de temps à discuter avec tous les patients. Elle n'eut pas l'air désarçonnée par mon discours. J'étais pourtant l'antithèse du mollusque qu'elle avait rencontré 2 jours plus tôt et que j'étais censé avoir été pendant les 6 derniers mois. Je me suis aussi ouvert à mes amis, continuai-je. Je communique avec eux, ils viennent me voir, cela me fait réaliser que j'ai très envie de retrouver ma vie d'avant. Ma famille aussi me manque. J'ai eu ma mère au téléphone ce matin, elle me propose de l'accompagner dans le sud la semaine prochaine, ce qui me réjouit au plus haut point. Je pense que je dois encore me reposer et prendre soin de moi, mais je veux le faire avec mes proches à mes côtés. Je tiens à préciser que je resterai très vigilant et que j'irai revoir mon psychiatre pour éviter toute rechute. Le médecin fit un petit rictus, ce qui équivalait peut-être chez elle à un grand sourire, puis regagna sa mine d'enterrement. Monsieur Massé-Dubois, pour le traitement, je propose qu'on le commence dès cet après-midi. Ne vous en faites pas, si tout se passe bien, vous devriez pouvoir sortir d'ici 3 semaines et on pourra même vous offrir 1 ou 2 soirées de permission. Mon sang ne fit qu'un tour. Je suis hospitalisé en soins libres, n'est-ce pas ? Demandai-je. Effectivement, et alors ? Donc, je peux refuser les traitements et partir quand je le souhaite. Alors, il y avait 2 femmes à ce moment-là. Mmh. Les 2 femmes se regardèrent éberluées. En théorie, oui, mais vous savez que... Alors, j'aimerais ne pas prendre de traitement et si je vais mieux, sortir lundi. Vous êtes schizophrène et il y a des chances que vous finissiez par faire une tentative de suicide. Vous devez prendre ce traitement, vous n'avez pas le choix, masséna la jeune stagiaire. Au contraire, je pense avoir le choix et vu l'état des gens ici, je me passerai volontiers de médicaments, d'autant que je vais mieux. Si je vais mieux sans avoir pris de traitement, pourquoi devrais-je en prendre un ? En 3 jours, on ne peut pas guérir, monsieur. On s'en fiche que vous alliez mieux. Et c'est sûrement faux, puisque vous ne pouvez pas aller mieux sans prendre de traitement. On peut tomber amoureux en 5 minutes, alors imaginez ce que l'on peut faire en 3 jours. Quel est le rapport, monsieur Massé-Dubois ? Aucun, c'était un trait d'esprit. Je ne pense pas que ce soit le moment ou l'endroit pour ce genre de propos. Refaisons un point lundi, mais ce qui est certain, c'est que vous devrez prendre ce traitement et vous n'y échapperez pas. Comme je vous le disais, j'ai prévu de partir en vacances avec ma mère la semaine prochaine. Si vous me forcez à rester ici, je devrais donc annuler ces vacances qui, pourtant, me feraient le plus grand bien. Eh bien, donnez-moi le numéro de votre mère, on va lui demander de repousser ses congés d'un mois et d'annuler les billets de train ou d'avion. Ce n'est pas très compliqué.
Oui, parce que, ce qui est dramatique là-dedans, c'est que... on bafoue complètement les droits des patients et puis on leur... En fait, on leur explique pas, voilà, ce à quoi ils ont le droit, est-ce qu'ils ont le droit de refuser ou pas, est-ce qu'ils ont, c'est vraiment plusieurs types d'hospitalisation.
Combien de temps ils vont rester, ce qui, voilà, les effets secondaires des médicaments.
Et il y a beaucoup de personnes donc, qui se font hospitaliser en soins libres. Et à qui on ne dit pas, en fait, mais vous avez le droit de refuser les médicaments. Vous avez le droit de sortir. En théorie, d'ailleurs, donc moi, j'avais le droit de sortir 3 fois par jour pendant 10 minutes, comme tous les autres patients.
Oui.
Mais en soins libres, on a le droit de sortir, beaucoup plus, on a le droit de sortir quand on veut, en fait. Mais ça, les médecins se sont bien gardés de me le dire.
Alors... Oui, bah je propose qu'on va mettre un petit morceau de musique qui correspond à quelque chose ici, à un épisode dans ton livre. Alors, on va laisser un petit blanc à l'antenne le temps que je change de micro. Voilà, on est toujours sur Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. L'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Et on écoute Naps, la kiffance.
Je vais te faire kiffer les week-ends, ma jolie. Elle me parle plus du quartier, du shit, de la police. Toute la semaine comme le J en folie. Je fais des cendriers, canettes dans l'Audi. Je passe les vitesses aux palettes vers Conti. Vas-y, garde-moi la barrette, là je suis en congé. Comme à l'ancienne, je mets le polo crocodile. Bronzage doré à l'huile de cocotier. Voyager jusqu'au Nirvana. Hôtel 5 étoiles, prendre le petit déj en pyjama. Faire un petit et tout sur le mont Fujiyama. Faire le tour de la Thaïlande en 500 Yamaha. Faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange. C'est là qu'il fonce, c'est là qu'il fonce. Que je dépense, gros joint devant la défense. C'est là qu'il fonce, c'est là qu'il fonce. J'prends Uber et du Calais au Georges 5. À la Ribéry, j'mange des entrecôtes à 1005. J'vais faire un tour, j'suis sans casque en 125. J'suis dans la kiffance, j'me sens plus d'attendre le 5. J'fais plaisir à ma mère, dans le ménage elle a trop souffert. Ma mère c'est ma reine, j'la laisse même pas mettre les couverts. Quand j'étais en galère, elle me dépannait à découvert. Dernier Range Rover, que je rôde le toit ouvert. Faut que j'quitte la France, elle a fait la petite frange. C'est là qu'il fonce, c'est là qu'il fonce. Que je dépense, gros joint devant la défense. C'est là qu'il fonce, c'est là qu'il fonce. Voyager jusqu'au Nirvana. Hôtel 5 étoiles, prendre le petit déj en pyjama. Faire un petit et tout sur le mont Fujiyama. Faire le tour de la Thaïlande en 500 Yamaha. Faut que j'quitte la France, elle a fait la petite frange. C'est là qu'il fonce, c'est là qu'il fonce. Que je dépense, gros joint devant la défense. C'est là qu'il fonce, c'est là qu'il fonce.
Et voilà, c'était La Kiffance de Naps. Et on est toujours sur Radio Liberté. L'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Alors là, ce morceau, on l'a passé parce qu'à un moment, vous étiez avec Jeanne, vous étiez deux, Et vous vous êtes regardé et vous avez décidé de monter le volume d'un appareil de magnéto.
Oui, ouais, exactement. Puis je vais revenir un peu sur les propos du psychiatre Mathieu Bellassène que j'ai rencontré donc il y a quelques jours.
Oui.
Qui nous disait, t'étais là aussi, que il avait fait son pot de départ donc de l'hôpital psychiatrique avec les patients et non avec les infirmiers. Et moi j'ai vécu donc ce moment incroyable avec ces patients, avec ces malades. Eux n'avaient pas accès à leur téléphone portable. D'ailleurs, je donnais parfois mon téléphone portable pour que les patients appellent leur famille. Et un soir, donc c'était, je crois, la veille de ma sortie prévue, j'ai décidé de mettre un peu de musique. Les infirmiers étaient complètement éberlués parce qu'ils n'avaient jamais... Ils n'avaient jamais vu, en fait, un patient faire danser les autres patients. Et j'ai voulu leur apporter ce moment de joie et j'ai vu les patients danser ensemble. C'était extrêmement, extrêmement beau. Je pense que ça faisait des jours, des semaines, des mois qu'ils n'avaient pas dansé. Et d'ailleurs, à mon tour de citer un petit passage, dans ce ballet des laissés pour compte, des peaux se frôlèrent avec maladresse, des yeux s'ouvrirent et s'enchantèrent, des regards complices se séduisirent. À chaque son répondait un mouvement, un sourire, un abandon. Ce soir, nous assistions à la première bacchanale des invisibles. Donc c'est vraiment ça, c'est voilà, une danse de gens qu'on invisibilise complètement, qu'on oublie, qui sont abandonnés par la société, mais qui sont abandonnés aussi dans l'hôpital psychiatrique. Et je me suis dit que ce moment, cette petite danse, voilà, pouvait leur redonner un peu de baume au cœur, ne serait-ce que pendant quelques minutes.
Dans ces établissements, en plus, il n'y a aucune activité, rien, aucune psychothérapie, mais aussi aucune activité.
Oui, aucune activité. Je fais intervenir à la fin de l'ouvrage Martine Dutoit, qui est la fondatrice de l'association Advocacy France, et qui m'explique, mais nous, on n'intervient plus en hôpital psychiatrique parce que les gens sont complètement shootés.
Oui.
Ils peuvent même pas suivre les activités. Voilà, on arrive, et elle me dit, on arrive en prison. On arrive en prison, les gens sont en pyjama bleu ciel, et ils sont même pas dans un état de pouvoir suivre des activités.
Toi aussi, tu fais parfois la comparaison avec la prison dans ton livre à plusieurs endroits.
Oui, oui.
La cour, par exemple, la cour de.
Oui, c'était une minuscule cour de prison. C'est la. Albert Londres aussi qui fait cette comparaison dans son livre Chez les fous, voilà, qui explique qu'on a un jury qui condamne des patients. Est-ce que j'écris ensuite, c'est qu'à la différence d'un bandit, d'un condamné, enfin le bandit, lui, il connaît la durée de sa peine, et le patient non.
Oui. Alors, il y a donc des épisodes aussi où, un peu difficiles, quoi, des épisodes difficiles, par exemple, l'histoire de Sylvie. Mm-hmm. Alors, je lis. Alors, en rejoignant mon lit ce soir-là, je fus surpris par des cris de femmes provenant de la chambre voisine. Je sortis dans le couloir et découvris ce visage tuméfié, horrifié et en pleurs, collé à la vitre, ses mains tambourinant sur les murs. Elle me suppliait de la libérer. Peu importe sa pathologie, j'avais envie de démonter la porte. Les infirmiers arrivèrent et me demandèrent de ne pas m'en soucier. Cette patiente était suspectée d'avoir attrapé le Covid et resterait enfermée le temps qu'il faudrait. Je n'ai jamais vu une telle souffrance dans le regard d'un être humain et ressenti autant de culpabilité et d'impuissance face à des larmes. Et un peu plus loin... « Je fus réveillé par des cris provenant du couloir. Engourdi par une nuit plus moite et étouffante encore que les précédentes, je sortis de ma chambre et vis ma voisine, dont je n'avais aperçu le visage qu'à travers sa fenêtre, hurler sa joie d'être enfin libre. Libre, tout du moins, de se promener dans les couloirs de la prison. Le terme est lourd de sens, mais c'est ainsi que je ressentais les choses. Albert Londres et Nelly Bly l'employèrent également pour qualifier l'hôpital psychiatrique dans leurs ouvrages respectifs sur le sujet. Le premier écrivit « Cette dame est prisonnière. Aucun jury ne l'a condamnée. Seul monsieur psychiatre en a décidé ainsi. Le roi est mort, vive le roi !» Blâmant au passage le fort pouvoir décisionnaire donné au psychiatre. La journaliste américaine fut plus mordante encore. Il est préférable pour un homme d'être bandit que fou. Quand le bandit a purgé sa peine, on lui ouvre la porte de la prison sans lui demander s'il recommencera. Je rajouterai que le bandit connaît, lui, la durée de sa peine. Ce que tu viens de me dire.
Exactement.
Nous faisions ici tout ce qui était en notre pouvoir pour passer le moins de temps possible dans nos chambres, tant nous y manquions d'air, alors je pouvais aisément comprendre le calvaire qu'avait vécu cette patiente. Et ensuite, c'est un peu plus loin encore dans le livre, 167. Le cas de Sylvie était de loin le plus problématique. J'ignorais le nom de la maladie qui avait entraîné cette femme dans une telle démence. À l'instar de Daisy, dont la folie l'avait peut-être privée d'une carrière dans le jazz, je reste persuadé qu'une hospitalisation en psychiatrie est trop souvent le synonyme d'un échec dans la prise en charge des malades.
Exactement, en fait, c'était le sous-titre à l'origine qu'on avait choisi pour le livre avec mon éditrice.
Oui.
C'était « Et si l'hôpital psychiatrique fabriquait plus de malades qu'il n'en soigne ?» Et ça, je ne suis pas le seul à le dire. En fait, on peut, et puis tout le titre en fait, du livre, tout simplement, redevenir fou. Il y a des gens qui peuvent rentrer presque sains d'esprit et qui peuvent ressortir complètement fous. Il y a le psychiatre Roger Gentis aussi qui le disait.
Ah oui, de nombreuses citations de Roger Gentis dans ton livre.
Exactement. Donc, c'est la première citation du livre. Il ne fait aucun doute aujourd'hui pour tous ceux qui ont les yeux ouverts que ces gens qu'on appelle les psychotiques chroniques et qui peuplent encore par dizaines de milliers les asiles, c'est l'asile qui les a faits et c'est la société dont il est l'instrument. L'asile s'est pourvu lui-même, il s'est nourri de son produit. Sans ces malades qui en forment la chair pléthorique, il n'y aurait jamais eu d'asile. Il n'y aurait jamais eu assez de malades pour faire pousser cette ignominie qui s'appelle l'asile. Donc je ne suis pas le seul à dire, en fait, l'asile est une fabrique à fous. Potentiellement, c'est une fabrique à fous. Mais c'est ça qui est dramatique.
J'avais une citation aussi d'Hervé Bazin, qui est apportée par André Bitton, du CRPA, le Cercle de Réflexion et de Proposition d'Action sur la Psychiatrie, association donc, qu'on peut aussi trouver sur le site, on peut trouver son site sur internet, psychiatrie.asso.crpa ou quelque chose comme ça. Et la citation est la suivante. Les asiles ont deux tâches à remplir, la guérison de l'aliéné et la protection de la société. La seconde passe avant l'autre car elle intéresse tout le monde et se réalise facilement.
Voilà, je ne suis pas le seul à le dire. Donc on a un hôpital psychiatrique qui fabrique des malades, qui fabrique des fous. Qui ne soigne pas. Et pourquoi ? Parce qu'on n'écoute pas le malade. C'est aussi Olivier Brisson, que je fais intervenir à la fin du livre, qui explique qu'il faut remettre le patient au centre du système, que les schizophrènes parlent au nom des schizophrènes, que les dépressifs parlent au nom des dépressifs. C'est pour ça qu'encore une fois, moi, dans ce livre, je volais la parole à personne. Voilà, je me fais justement le porte-voix de ces gens qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas. Ce que j'ai expliqué à une journaliste il y a quelques semaines, c'est que voilà, finalement, c'était dommage un peu qu'un journaliste ait plus de médiatisation que les malades eux-mêmes et que les professionnels de la santé non aussi. Alors, je trouve ça un peu triste, un peu dommage.
Bah, c'est étonnant, parce que c'est d'autant plus étonnant que, bah, par exemple, un soignant, normalement, il pourrait avoir cette faculté de se mettre au niveau des patients pour mieux échanger, en tout cas, de façon un peu équitable, quoi.
Oui, et puis il y a beaucoup de soignants qui assistent à des scènes dramatiques ou d'une grande violence, hein, qui ne dénoncent pas. Il y a des soignants qui, par peur de perdre leur métier, ne dénoncent pas les agissements de leurs collègues ou de leurs supérieurs, encore oui. Pire.
Et j'étais en train de me dire que tu avais, en 6 jours, réussi quelque chose que des soignants ne parviennent pas à obtenir, en fait. C'est-à-dire une communication sans filtre, une communication directe, et une confiance réciproque. En fait.
Oui, exactement. Puisque voilà, ce que je dénonce dans ce livre, c'est toute une politique, ce que je dénonce est aussi corroboré par les propos des soignants eux-mêmes, et puis il y a des soignants qui m'ont contacté après la sortie du livre, qui souhaitaient évidemment rester anonymes, mais qui me disaient, voilà, mais vous avez raison, nous on voit des choses absolument atroces, on peut pas en parler, on peut pas critiquer ce système. Si, il y a une infirmière à la fin du livre qui intervient, et pour qui c'était sa vocation, c'était son rêve de gosse d'être infirmière en psychiatrie, et ce qu'elle a vu l'a profondément choquée. Elle a tout plaqué, elle a tout arrêté. Et elle m'a expliqué que en fait, le soin avait pris le dessus sur le prendre soin dans ce milieu. Donc elle a tout quitté, elle a quitté tout ce milieu-là.
Pour finir, je propose de lire juste les toutes dernières pages, non pas celles des notes, évidemment, mais par rapport celui-là, ce passage-là, page 198. La législation peut bien évoluer à coup de réformettes, et les institutions, tout comme la société civile, continuent à lancer des alertes. Le quotidien des patients hospitalisés en psychiatrie ne s'embellira pas sans une prise de conscience collective, depuis l'image que nous nous faisons de la folie jusqu'au respect que nous devons à ceux qui ne sont pas comme nous. Le droit d'inventaire incombe à la société dans son intégralité.
Et en plus d'une prise de conscience publique, collective, il faut une prise de conscience politique également. Il faut qu'on ait des hommes politiques assez courageux pour dénoncer ce qui se passe dans les hôpitaux psychiatriques. Il faut qu'il y ait un grand plan de la psychiatrie, mais en tout cas que des députés, des sénateurs se saisissent de ce sujet, parce qu'en effet, tout le monde peut être concerné par la maladie mentale un jour dans sa vie. Il faut qu'on se saisisse de cette question, les citoyens, les politiques, tout le monde en fait.
Là, je vais rebondir aussi par rapport à une petite anecdote que tu évoques. C'est depuis l'image que nous nous faisons de la folie. C'est-à-dire qu'à un moment, tu avais dit à tes proches, j'ai trouvé une amie. Il s'agit de Jeanne, et je vais tout lui dire, je vais lui que c'est une supercherie, etc. Et ses proches ont réagi en disant, mais tu ne vas quand même pas tout raconter à une folle. Et donc voilà.
Oui, parce qu'en fait aujourd'hui, une personne différente est rapidement considérée comme folle. En fait, si on ne suit pas une ligne directrice que veut nous imposer la société capitaliste, on va être rapidement considéré comme déviant, finalement, oui. Comme étant en marge de la société. En fait, qui n'a jamais dit à une personne mais t'es complètement fou ou t'es complètement folle. Et si on ne respecte pas la norme, si on sort un peu du lot, on va être considéré comme fou. Et j'ai une dernière citation justement à ce sujet. On juge du degré de civilisation d'une société à la manière dont elle traite ses marges et ses déviants. C'est Lucien Bonafé qui était psychiatre. Et je trouve ça très, très juste. Et en fait, c'est la question également que je me pose à la fin du livre. Finalement, où est la folie? Est-ce que la folie est entre ces murs ou à l'extérieur? Est-ce que la société ne serait pas plus folle encore que ces patients dans un hôpital qui sont d'une grande humanité? Est-ce que c'est pas finalement la société qui serait déshumanisante, hein, voilà, contrairement à ces patients qui sont eux d'une grande humanité. Voilà, où est la folie? Et en effet, l'image qu'on se fait de la folie, des gens qui ne sont pas comme nous et qui méritent pourtant voilà, tout notre amour et toute notre solidarité.
Eh bien, c'est sur cette question que nous laisserons en suspens que nous achevons cette émission pour aujourd'hui. Alexandre, merci. Natacha, merci aussi d'être passé nous voir. Et nous vous disons à la semaine prochaine.
Merci.
Man, go that boy.